RCF.
Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du Journal des entreprises sur RCF. Il y a environ un an, on évoquait à ce micro avec l'architecte Johan Guichard le projet Empreinte. Ce projet a été initié par une entreprise du bâtiment de Chalonne-sur-Loire, ERB, qui a fédéré autour d'elle une vingtaine de PME, TPE, start-up de la région, pour construire une maison en utilisant des innovations dans le secteur du BTP, en privilégiant de nouveaux matériaux et l'économie circulaire, en imaginant un bâtiment qui réponde à une norme environnementale rigoureuse. Le projet est terminé, la maison est construite à Beaucouzé. On reçoit aujourd'hui le président de la société ERB, Thomas Grenouillot. Je suis ravi de vous accueillir. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on parlera avec vous de ce projet Empreinte et puis de ce que vous en avez retenu maintenant qu'il est terminé. Et quel prolongement vous voulez maintenant lui donner? Mais tout de suite, on commence avec quelques infos qui ont fait l'actu économique cette semaine en Anjou.
Le journal des entreprises, l'actualité économique positive de l'Anjou.
Tout d'abord, la société du groupe Angevin Eram, l'enseigne de mode Gémeaux, lance une nouvelle collection maille fabriquée grâce à la technologie 3D. Elle est conçue au siège de la marque à Saint-Pierre-Montlimard. Elle est fabriquée par l'entreprise de Saint-Malo 3D Tex. Le procédé permet de limiter fortement la perte de matière qui passe de 15 à 30% pour la confection traditionnelle à seulement 1% avec la technologie 3D. Et puis, en septembre 2021, le bailleur Angevin Soclova avait annoncé le lancement d'un partenariat avec la société nantaise Tree and Collect pour valoriser les déchets de chantier avec la prise en charge pour être recyclé de 13 types de matériaux. En 6 mois, l'opération a permis d'économiser sur 7 chantiers de construction de la Soclova 15 899 kilos de CO2, c'est l'équivalent de 16 allers-retours Paris-New York, et puis l'équivalent de 196 mois de consommation électrique d'un foyer moyen en France. Une convention de partenariat de 2 ans vient d'être signée entre les deux parties prenantes pour tous les chantiers de la Soclova, y compris ceux de réhabilitation et de rénovation. 9 nouveaux chantiers de construction verront ainsi cette année leurs déchets revalorisés par Tree and Collect. Thomas Grenouillot, vous êtes donc le président de ERB, la société de construction basée à Chalonne-sur-Loire, qui a initié et piloté le projet Empreinte, lancé en 2021. Vous avez construit une maison en bouleversant un peu les règles de construction habituelles. Avant de parler d'Empreinte, une réaction sur une de ces infos économiques, la Soclova qui recycle ses déchets de chantier. Ça bouge dans le secteur du bâtiment avec des réflexions fortes sur l'environnement. C'est une prise de conscience nouvelle ou c'est quelque chose qui se renforce encore?
Oh ben je pense qu'il y a une impulsion qui est un peu tous azimuts là. On voit bien que notre modèle est en train de muter vers une économie circulaire la plus totale possible. Et dans le BTP, il y a beaucoup à faire. Donc là, vous parlez de Tree and Collect. Nous, c'est un partenaire effectivement qu'on a aussi dans l'entreprise. Et on trouve ça très intéressant justement de se dire que les déchets doivent être valorisés. Et là, encore une fois, à l'échelle nationale, c'est 28 millions de tonnes quand même à traiter. Donc il y a de quoi faire. Oui.
Alors. Avec ERB, que vous présidez à Chalonne, vous avez piloté le projet Empreinte à Beaucouzé. Initialement, rappelez-nous ce que c'était que l'objectif de ce projet.
Alors l'objectif, c'était de lancer en fait une aventure la plus globale possible en termes de renversement de table. C'est-à-dire qu'on partait d'une feuille blanche où on voulait retracer en fait le parcours de l'acte de construction. Il y avait une idée assez simple, c'était de révolutionner à la fois les outils employés et puis les matériaux également mis en place. Et pour ça, on s'est entouré de différentes startups, d'entreprises innovantes qui apportaient des solutions nouvelles qu'on a voulu tester.
De quel constat vous étiez parti pour vous lancer dans cette aventure?
Le constat qu'on faisait face à de multiples pénuries de ressources, qu'elles soient humaines, de matières premières, on l'a encore actuellement, encore plus vivement d'ailleurs qu'il y a à peu près un an et demi quand on a lancé le projet, et qu'il fallait forcément réinventer notre système modestement. L'idée, c'est pas de penser qu'on a trouvé une réponse qui satisferait tout le monde, mais de surquestionner sur le schéma et la méthodologie aussi de travail. C'était l'axe qui nous intéressait principalement.
Comment vous avez travaillé justement? Si la méthodologie de travail était différente.
Alors nous, chez ERB, on croit beaucoup au mode collectif, au mode collaboratif. Et là, l'idée, c'était d'inclure dès le départ de la conception, en fait, les acteurs innovants pour pouvoir justement penser la construction, penser les travaux à réaliser avec en ligne de mire la technologie qui voulait être employée, qu'elle soit robotique parce qu'on utilisait une imprimante 3D ou qu'elle soit sur des matériaux différents puisqu'on a utilisé beaucoup de matériaux ici du recyclage. Donc voilà, c'était dès le départ en fait d'intégrer dans ce mix en fait qui est nécessaire de conception les éléments de réalisation.
Ce qu'on ne fait pas habituellement dans une construction traditionnelle, il y a un architecte qui dessine des plans, etc. Et après, on fait appel à des l'entreprise pour faire les différentes tâches.
C'est ça. On a coutume de dire que notre secteur est très siloté, c'est-à-dire qu'on se passe le témoin un peu d'acteur en acteur. Les choses sont globalement quand même bien faites. L'idée n'est pas de dire ici que ça fonctionne pas. Mais si on veut des grandes mutations, des grands changements, il faut réorganiser en fait les limites de prestation entre chacun des acteurs. Et c'est ce qu'on s'est attaché à faire, nous, sur Empreinte.
C'est facile de travailler avec des groupes, des startups, des PME. Vous étiez à peu près 25, c'est ça. Regrouper toutes ces forces vives, c'est très bien. Est-ce que c'est facile?
Ah ben, facile, il y a forcément des moments plus compliqués. N'importe qui a l'habitude de jouer en collectif sait qu'il y a des moments très bons quand on va à la gagne et puis des moments un peu compliqués quand il y a des doutes. Mais on a su, nous, fédérer assez au final facilement et le pilotage a été assez au final efficace puisque les startups avaient la même conviction que nous qu'il fallait changer les choses. Donc on était déjà dans un terrain de jeu, je dirais, qui était plutôt favorable en fait au changement de méthode.
Alors l'idée, c'était la construction d'une maison. Elle s'est construite à Beaucouzé, au domaine de l'Échat. Ça a duré une dizaine de mois, ça aurait pu être moins, parce que vous avez pris le temps aussi.
Oui, pris le temps. Disons qu'on a voulu impérativement expliquer à qui qu'il souhaitait ce qu'on était en train de faire. Pour nous, ce qu'on aimerait retenir de cette aventure-là et laisser en fait à tout le monde, c'est que c'était une démarche. Notre démarche, c'était de dire que venez voir en fait ce qui s'y passe, donnez votre avis, probablement qu'encore une fois avec des avis encore plus multiples que ce qu'on avait déjà avec les acteurs autour de la table, on pourrait aussi corriger notre trajectoire. Donc effectivement, on a pris le temps de faire visiter le chantier. Il y a plus de 1000 personnes qui sont passées là en quelques temps, pour justement essayer de prendre tout le retour d'expérience nécessaire.
Vous disiez on aurait pu modifier votre trajectoire, vous auriez pu modifier votre trajectoire. Vous l'avez fait justement pendant ces 10 mois ou est-ce que vous êtes resté dans le plan que vous étiez fixé ?
Alors on est resté, parce qu'il faut forcément un cadre, on est resté dans le plan qu'on s'était fixé. Pour autant, il y a des ajustements qu'on peut forcément faire le temps de la construction. Là, on a plutôt renforcé nos convictions, qui étaient de trois ordres. C'était répondre en fait à l'urgence environnementale et donc de travailler en fait le bas carbone sur notre programme. C'était une meilleure conception pour des meilleurs usages dans la maison, et puis une meilleure réalisation pour nos équipes, pour trouver des réponses en fait pour plus de facilité de travail, moins de pénibilité et puis une meilleure qualité d'exécution.
Le journal des entreprises avec Olivier Hamard.
Toujours en compagnie de Thomas Grenouillot, président de la société ERB à Chalonne-sur-Loire, qui a piloté le projet Empreinte, la construction d'une maison à Beaucouzé avec des techniques et des matériaux innovants. Vous avez parlé bas carbone, ça consistait en quoi
Travailler sur le bas carbone se fait de plusieurs manières. L'idée, c'est d'avoir en ligne de mire qu'on doit générer le moins de carbone possible en équivalent kilo, en fait, sur le temps de la construction. Et ça, ça touche à deux thèmes principaux. C'est les techniques qu'on emploie, c'est-à-dire la façon dont on va mettre en place les matériaux, la quantité qu'on met en place. Et puis, le matériau en lui-même, intrinsèquement, il génère, en fait, de par sa fabrication, sa pose et puis sa durée de vie, un poids carbone. Et l'idée, c'était sur l'ensemble de ces segments, c'est pour ça qu'on voulait impérativement une approche globale, trouver le mixte le plus intéressant pour diminuer le carbone, puisque c'est le carbone qui est à l'origine principalement en fait, de l'effet de réchauffement climatique.
Concrètement, vous avez travaillé par exemple avec Néolith, qu'on a reçu à ce même micro-là, pour les fondations.
Exactement, c'est-à-dire que Néolith propose une voie nouvelle pour les déchets qui sont à ce stade encore soit enfouis, soit incinérés. Donc écologiquement et environnementalement, c'est une solution qui est défavorable. Donc Néolith ouvre une troisième voie qui est en fait de les reformuler, de les retravailler pour en donner des granulats. Donc les granulats, c'est quoi? C'est en fait des cailloux qu'on met dans le béton. Et ça a un double avantage, c'est que du coup, un déchet devient une ressource. Et ça évite en plus, en parallèle, qu'on aille prendre dans la matière première les granulats qu'on n'aurait pas utilisés si on n'avait pas une inulte.
Vous avez aussi travaillé avec la 3D, technologie 3D, ce qui se fait peu dans le bâtiment quand même jusqu'à présent.
Oui, ça c'est en train quand même d'avancer progressivement ces sujets. L'idée, elle est simple, c'est de ramener de la robotique. Parce que quand on parle de 3D, c'est vrai que c'est un peu large. On a utilisé nous des bras robotiques pour aider nos compagnons effectivement à faire l'élévation des murs. On pense qu'en tout cas, il faut tester ces solutions-là qui sont un peu comme les grues quand elles sont arrivées sur les chantiers. C'est-à-dire qu'au départ, je dirais un peu particulière, parce que l'approche peut-être amener un peu de réticence, mais au final, on a bien vu que les équipes comprenaient tout de suite à quoi pouvait servir un robot sur les chantiers. Donc effectivement, on a une des ruptures technologiques, c'était d'apporter l'impression 3D sur notre construction.
Vous avez évoqué, il y avait trois axes, bas carbone, conception. Par rapport à la conception ?
Alors, sur la conception, c'était de considérer qu'on on réalise en fait une maison pour aller à minima 30 ans de vie et d'habitants qui seront à l'intérieur de cette maison-là. Donc, il fallait, dès la conception, adapter ses formes, ses usages, sa réversibilité, sa modularité pour que, justement, dans 10 ans, 15 ans, elle soit pas, en fait, non adaptée ou moins adaptée à l'usage de cette maison-là.
Qu'est-ce que vous retirez de cette expérience de 10 mois que vous avez, 10 mois, voire plus, parce que vous avez travaillé en amont, vous continuez à travailler sur les résultats de cette expérience. Qu'est-ce que vous retenez de cette aventure?
Alors, on retire énormément de choses. Je dirais que la principale, c'est de considérer que c'est possible de faire autrement. C'est-à-dire qu'il est possible, avec nos équipes, on l'a vu, nous, chez VRB, d'imaginer en fait un parcours de construction différent. Donc déjà, ça ouvre une voie très sympathique, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas tellement de freins possibles aux innovations. Et puis, ça permet surtout d'apporter des réponses. Donc c'est ça qu'on va retenir, des réponses efficaces aux grands enjeux actuels. Là, notamment la transition écologique.
Vous avez travaillé sur une maison. Est-ce que les technologies que vous avez employées, la façon de fonctionner que vous avez employée, elle est adaptable à plus grande échelle? Construire une maison, ok. On peut aujourd'hui, il y a une vraie problématique de logement. Il va falloir aller plus loin, peut-être plus vite aussi.
Alors effectivement, cette question de ce qu'on a appelé la massification, on arrivait à densifier la quantité de projets qu'on va pouvoir sortir, effectivement est un enjeu. Par contre, nous, pour ERB, on n'aura pas la capacité d'inonder le marché, c'est pas du tout notre objectif. C'est plutôt de montrer qu'il y a des technologies qui peuvent aujourd'hui être employées, et effectivement, celles qui ont été employées, nous on fait pas de maisons individuelles ou quasiment pas, elles sont utilisables dans des projets qui seraient bien plus grande envergure, et du coup pour des résultats encore meilleurs.
Vous avez retiré beaucoup de positifs. Vous avez rencontré quelques écueils quand même.
Oui, il y a toujours, sur tout type de projet, encore plus quand ils sont innovants, quelques petites difficultés, on va dire, dont on se serait bien passé. L'écueil principal, c'est d'arriver justement à acculturer l'ensemble de l'écosystème à ces innovations. Donc, ça veut dire qu'il faut être certifié pour ce qu'on réalise, il faut être assuré, et le parcours que ça a pu être, effectivement, nous a pas, comment dire, on aurait préféré que ce soit peut-être un peu plus simple. Maintenant, l'idée, justement, c'est que pour les prochains projet d'arriver en fait à intégrer dès le départ les certificateurs et les assureurs à la démarche d'innovation.
Ouais, parce que c'était pas un one shot, hein. L'idée c'est vraiment de poursuivre dans cette voie-là. Vous avez d'autres projets désormais que vous allez mener?
Alors oui, on a deux autres projets, on va dire, qui sont concrètement lancés, en tout cas sur une trajectoire. Un premier projet qui est justement d'intégrer avec probablement le concours du CSTB un projet de construction aussi de maison, parce qu'on aime bien cette histoire de maison, ça raconte aussi une histoire à tout le monde, et c'est facile d'appréhender justement des comparatifs par rapport à d'autres maisons traditionnelles. Donc là, c'est de réaliser une maison en cherchant de l'économie de la quantité, parce qu'on se questionne toujours sur les matériaux, la qualité des matériaux, mais pas forcément sur la quantité des matériaux qu'on met en place. Donc là, on aimerait les affiner, donc d'aller un peu chatouiller la norme, et là on a besoin du certificateur et de l'assureur dès le départ pour connaître un peu les limites de l'exercice de l'ingénierie qu'on va essayer de projeter. Et puis le deuxième projet, c'est de faire l'impression en terre du site. La terre du site, quand on réalise les fondations, c'est le premier déchet qu'on génère. Et du coup, l'idée demain, c'est de récupérer avec un bras robotique et une imprimante 3D, en fait, de réimprimer la terre qu'on aura améliorée, qu'on aura amendée, pour en faire des murs porteurs.
C'est-à-dire que les murs porteurs seront constitués, si j'ai bien compris, de la terre qui aura été extraite.
Hein, oui, en tout cas, c'est tout l'enjeu qu'on est en train de travailler avec ce projet-là.
Merci beaucoup Thomas Grenouillon, on suivra ça très attentivement. Merci encore d'avoir été notre invité. Très bonne fin de journée à tous et à la semaine prochaine.